international, mais il y a un objectif géopolitique. Et dire qu'il y a cet objectif géopolitique, c'est aussi c'est appelé à la lucidité par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une position qui est difficile à tenir. On est tellement, si vous voulez, aujourd'hui sous le coup de l'émotion justifiée par rapport à la mort de nos confrères à Homs, par rapport aux agissements du régime qui sont des agissements parfois barbares réellement, que finalement on perd de vue un certain nombre de choses que nous, on essaye d'éclairer en montrant que, par exemple, l'opposition syrienne est dans une situation très compliquée, avec des divisions, avec des tendances, enfin, avec des combattants étrangers. D'abord, qu'elle n'est pas désarmée. Je veux dire, il y a des combattants étrangers. Quand on parle de 7500 morts, c'est vrai, mais jamais personne ne dit combien de morts militaires il y a. C'est des deux côtés. Il y a des combats. Alors, c'est vrai que l'armée syrienne a plus de moyens que les combattants, mais c'est vrai que ces combattants sont divisés. C'est vrai qu'une partie de l'opposition est contre cette militarisation qui est en train d'être imposée, notamment par les Saoudiens et les Qataris qui veulent armer. Il y a des combattants d'Al-Qaïda qui arrivent d'Irak, qui arrivent du Liban. Tout ça, c'est... Ce n'est pas pour, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est toujours compliqué de savoir comment on tient les deux bouts, comme on dit, c'est-à-dire à la fois de ne pas apparaître comme soutenir ce régime qui est un régime qui doit changer comme tous les régimes dans le monde arabe, et en même temps de ne pas être naïf en ne mesurant pas, c'est pas seulement la naïveté, je veux dire, il y a un risque en Syrie d'affrontement ethnico-confessionnel avec des minorités qui, enfin, je veux dire, on l'a vu, l'appel assez hallucinant de Alain Juppé aux chrétiens syriens pour qu'ils ne choisissent pas le mauvais camp. Les chrétiens syriens, qui sont 10% de la population, sont divisés en beaucoup d'églises, ont vu arriver, après 2003, 1 million de réfugiés d'Irak, dont des centaines de milliers de chrétiens, qui ont fui à la fois le désordre, les persécutions, etc. Et nous, le gouvernement français leur dit « Ah non, n'ayez pas peur, tout va bien se passer ». Mais c'est pas que les chrétiens soutiennent le régime, c'est que les chrétiens ont peur, à juste titre, de ce qui va se passer après, et demandent des garanties de l'opposition, garanties que le Conseil national syrien ne donne pas vraiment. Et on a vu l'autre aspect, c'est les Kurdes, qui sont quand même une partie importante. C'est eux qui ont commencé les manifestations, les Kurdes. C'est vraiment, ça a été la première fraction à descendre dans la rue. Aujourd'hui, ils ont rompu avec l'opposition. Ils ne soutiennent pas le régime. Mais ils s'inquiètent du fait que le Conseil national syrien, sous influence essentiellement des islamistes les plus radicaux, refuse de reconnaître leurs droits en tant que Kurdes, c'est-à-dire non-arabes, etc. Donc c'est cette situation compliquée qu'on veut essayer de montrer et qui est importante d'expliquer, avec le fait qu'on est dans un déferlement médiatique tel qu'on en a eu l'expérience depuis maintenant 1990-91, depuis la première guerre du Golfe, quand l'armée irakienne débranchait soi-disant les bébés dans les couveuses. Enfin, on sait à quel point il est facile d'utiliser l'émotion pour dire brusquement « oui, ce régime est particulièrement odieux, mais on cache ce qui se passe en Arabie saoudite ou au Bahreïn, où il y a une répression qui touche un peuple en révolte depuis plus d'un an. »
Nous ne tuons pas notre peuple.
Bachar al-Assad.
Aucun gouvernement dans le monde ne tue son propre peuple.
ABC, 7 décembre 2011.
À moins d'être dirigé par un fou.
Cet homme était sorti pour acheter du pain et du houmous pour ses jeunes frères. Et il a été abattu dans cette même rue du quartier. C'est un sniper qui l'a abattu.
Je suis devenu président grâce au soutien de mon peuple. Il est impossible que quiconque dans mon pays ait pu donner l'ordre de tuer.
Gérard Duménil, on continue avec le diplôme de Mars autour de la réindustrialisation. La désindustrialisation, on a commencé par la désindustrialisation, maintenant on parle de réindustrialisation, on a fait de la délocalisation, on va relocaliser, et c'est un dossier qui s'appelle « Retour à l'usine ». Alors je vous donne 4 termes, hein, désindustrialisation, réindustrialisation, délocalisation, relocalisation. Voilà, vous avez 3 minutes.
Bon, alors, je crois qu'il faut quand même resituer un petit peu cette discussion dans le cadre politique actuel. Hein. Aussi bien en France qu'aux États-Unis, on est, disons, dans des circonstances qu'on peut qualifier d'électorales. Et ces circonstances-là font qu'émergent un certain nombre de discours qui sont des discours qui ont des apparences critiques, hein, ou qui ont des apparences, justement, de remise en question de ce que j'appelais tout à l'heure le néolibéralisme. Alors, par exemple, on voit les gens, maintenant, s'en prendre à la finance. Donc, maintenant, apparaît un nouveau thème, extrêmement intéressant, qui est ce thème de la désindustrialisation et le thème de la réindustrialisation ou relocalisation. Alors, premièrement, ce phénomène de dénaturalisation,